Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF. Le magazine Bana Okapi de ce jour traite de la question de l'entrepreneuriat de jeunes à Kisangani dans la province de la Tchopo. Comme dans de nombreuses régions, les jeunes de cette province qui finissent les études n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Ils finissent par se lancer dans les débrouillardises. Ainsi, de nombreux jeunes sont au chômage. D'autres jeunes qui souhaitent se lancer dans les activités entrepreneuriales sont confrontés à de nombreux défis, notamment le manque de financement, manque de formation et les manques d'infrastructures adéquates. Restez avec nous et ensemble nous allons en savoir un peu plus sur le défi qui caractérise l'entrepreneuriat de jeunes dans cette partie du pays. Sarah Soumel est à la présentation de ce magazine, Alain Goya sur la mise en onde, avec la participation de Plamidim Biyavanga, Grâce Envezolo, Rachel Kessé, Ezekiel Mousalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salomo, Etienne Lissumbo, Guylaine Kassassia et Stanislas Diomi. Gisèle Cage coproduit et réalise ce programme de Radio Capi, financé par l'UNICEF sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijanou. Le magazine Bana Okapi prend son envol. Ce numéro du magazine Bana Okapi nous emmène à Kisangani Boyoma Singa Mwambe à la rencontre de jeunes. Notre collègue Gisèle Cache est fraîchement de retour de la province de la Tchopo. Elle nous parle de l'entrepreneuriat de jeunes. Bonjour Gisèle.
Bonjour Sarah Sumbela et bonjour à tous nos auditeurs.
Vous avez été à Kisangani avec notamment l'équipe d'Okapi Service pour organiser une série d'émissions radio. Vous vous êtes intéressé notamment sur la question de l'entrepreneuriat de jeunes. Quel a été votre constat?
Bon, vous l'avez dit dans l'introduction de cette émission, l'entrepreneuriat de jeunes peine à se développer dans la province de la Tchopo. La réalité est que beaucoup des jeunes qui terminent leurs études universitaires n'arrivent pas à trouver l'emploi, mais peu sont ceux qui s'élancent dans les activités entrepreneuriales, déplorent plusieurs observateurs. Ils préfèrent attendre une occasion pour se faire embaucher quelque part. Malheureusement, il n'y a plus assez d'entreprises ou des sociétés qui offrent l'emploi à ces jours. Plusieurs sociétés de renom ont fermé leurs portes depuis de longues années, parmi lesquelles la sorgerie, qui était dans la production des savons, d'huile végétale et d'autres produits cosmétiques, la société textile de Kisangani, la Bralima, le complexe sucrier de l'Otokila, toutes ces sociétés n'existent plus. Et ce sont de nombreux jeunes qui en pâtissent aujourd'hui.
Qu'est-ce qui explique que de nombreux jeunes ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat?
Manque d'initiative, manque de formation, manque de moyens financiers. Parlons de la formation. La formation donnée à l'école, vous le savez déjà, ou à l'université, reste en dehors de l'univers et ne tient pas compte de réalités actuelles, alors que le monde évolue. Il n'y a pas non plus assez de structures qui facilitent aux jeunes d'avoir des formations adéquates sur l'entrepreneuriat. Les banques n'offrent pas non plus des crédits pour permettre aux jeunes de lancer leurs propres activités. Il se pose également le problème d'accessibilité de la région. Les routes d'accès sont impraticables. La traversée du fleuve Congo est devenue difficile. Un accès fiable à l'électricité fait défaut malgré une centrale hydroélectrique. D'autres problèmes, autant de problèmes qui ne facilitent pas en tout cas l'entrepreneuriat de jeunes. Mais pour certains observateurs, il est possible de se lancer dans n'importe quel domaine entrepreneurial dans la province de la Chopo qui regorge en tout cas d'immenses potentialités, particulièrement dans le secteur minier et agricole. Nos invités reviendront là-dessus avec force détail dans cette émission.
Merci beaucoup Gisèle.
Merci Sarah Sombela.
La problématique de l'entrepreneuriat de jeunes de la province de la Chopo ne passe pas inaperçue. Certaines ONG plaident et proposent des solutions à long et à court terme pour y remédier. C'est le cas de l'ONG Solidarité pour la défense des droits humains qui propose le renforcement de compétences ainsi que les capacités de jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat. Jean-Paul Nyondo de l'ONG Solidarité pour la défense des droits humains est au micro de Gisèle Cash.
Étant donné que les jeunes ne sont pas formés ici par rapport à l'entrepreneuriat, la quasi-totalité de ce qu'ils font là, c'est des brouillardises. Ils se débrouillent pour subvenir aux besoins. Ils ne le font pas d'une manière professionnelle. Il serait mieux à ce qu'on puisse réfléchir comment renforcer les compétences et les capacités de ces jeunes par rapport à la question. Parce que beaucoup de jeunes sont formés pour solliciter d'emploi auprès des entreprises, alors qu'il n'y en a pas assez ici. Beaucoup oublient que, en fait, à partir de l'entrepreneuriat, on peut se faire la vie et on oublie le reste.
Mais est-ce qu'il y a au moins plusieurs jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'ils sont nombreux, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat aujourd'hui?
Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent, mais ils le font d'une manière moins professionnelle. C'est-à-dire, on y va, on n'a pas le cœur à l'ouvrage, quoi. Hein, on ne le fait pas comme sa profession habituelle. On le fait comme si c'était un passe-temps en attendant le meilleur jour. Alors que le lendemain n'appartient à personne, vous pouvez vous faire fortune et vous pouvez devenir professionnel et y demeurer et engager des autres. C'est ces aspects-là que moi je considère comme professionnel.
Comment faire alors pour booster l'entrepreneuriat dans cette province? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Moi je crois qu'il faut commencer par l'encadrement des jeunes. Il faut encadrer les jeunes. Ils nourrissent certains besoins, ils nourrissent des atouts, ils ont au point de les faire. Mais comment ils le font? Moi je crois qu'il faut un encadrement pour une meilleure orientation. Étant donné qu'il n'y a pas d'encadrement, chacun évolue dans sa direction, si bien qu'on ne sent pas du professionnalisme dans ce qu'ils font. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait aussi à ce que le pouvoir public, l'État, plante un décor qui favorise l'entrepreneuriat, que l'État s'engage fondamentalement dans la lutte contre l'État, carcérie policière, administrative, de tous bords, qui décourage pratiquement ce qui commence. Avant de commencer, on vous impose beaucoup de conditionnalités, si bien que aussitôt vous vous découragez, vous devenez un tremplin pour certains politiciens verrés et vous versez dans l'oisiveté avec toutes les conséquences possibles.
Lesquelles parmi les conditionnalités?
Bon, par exemple, qu'on puisse alléger l'imposition par rapport à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qu'on les encourage. Ailleurs, il y a même des crédits bancaires. Lorsqu'on réalise que tel ou tel groupe de jeunes affiche une certaine sérieuxité, on peut accorder des crédits pour que les jeunes émergent. Les idées sont là, mais les gens tournent en rond. Moi, je crois qu'on aurait pu faciliter les conditions pour que les jeunes se lancent.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Seconde partie du magazine Bana Okapi, ce programme de Radio Okapi dédié aux jeunes et plus jeunes, financé par l'UNICEF, qui traite des sujets liés à la santé, l'environnement, la protection des droits de l'enfant et l'entrepreneuriat. Justement, cette dernière thématique est au cœur de notre magazine du jour. L'entrepreneuriat de jeunes de Kisangani, dans la province de la Chopo, fait face à plusieurs défis. Quel sont ce défi et comment aider les jeunes à réussir? Élément de réponse dans cette seconde partie du magazine Banan Okapi, présenté par Sarah Sumbela. Alain Goya sur la mise en onde avec la participation de toute l'équipe Banan Okapi. Gisèle Cage coproduit et réalise ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele Dijano. Restez dans votre confort à l'écoute du magazine Banan Okapi sur la fréquence de la paix. Et nous lançons cette seconde partie. Notre premier invité est Josaphat Kaloumé, jeune du Parlement d'enfants et de jeunes. Il a fini ses études en droit, mais face au manque d'emploi, il s'est lancé depuis 3 ans dans l'agriculture. Pour lui, les problèmes de l'entrepreneuriat à Kisangani et sur l'ensemble de la province de la Tchopo se posent avec acuité. Josaphat Kaloumé en parle dans cet entretien avec Gisèle Cash.
D'accord, nous allons donc... Y aller, Monsieur Josaphat Kaloumé, bonjour.
Bonjour, Madame la journaliste.
Vous pouvez prendre, me regarder. D'accord. Vous êtes parlementaire hein, ici dans le Parlement des jeunes dans la province de la Tchopo, mais en même temps entrepreneur. Pouvez-vous nous dire c'est quoi votre domaine d'entrepreneuriat?
Bon, merci déjà pour la parole. En fait, puisque nous avons premièrement fini en droit. Nous avons fini en droit et tout, mais que nous nous rendons compte qu'à attendre faire ce que c'est pourquoi nous avons passé des années à l'université et tout n'est pas une garantie pour la vie. Alors nous essayons de nous lancer dans des petites activités selon les capacités que naturellement Dieu nous a données. Et là présentement, je suis dans l'agriculture. Ça, c'est quelque chose que je sais faire depuis les petits séminaires. C'est quelque chose que j'ai appris là-bas. Et je me lance un peu dans ces genres d'activités, l'agriculture. Je fais des plantations, fais de manioc, je fais la transformation de manioc en farine de manioc. C'est un peu dans ce que j'excelle, en attendant de voir ce que nos études peuvent nous aider à devenir, tout en vendant ce que nous avons appris auprès des sociétés, dont je dirais des établissements, des certaines personnes qui nous consultent et tout, et que nous pouvons d'une certaine manière, voire même dans le Parlement déjà, nous occupons même la fonction de conseiller juridique. Nous faisons notre mieux pour que ce que nous avions appris ne soit pas oublié, mais qu'au même moment, nous puissions mettre en œuvre ce que Dieu nous a donné naturellement, comme force, comme physique, comme intelligence sur les plans pratiques et tout.
Mais voilà. Vous dites que vous êtes dans l'agriculture, mais vous faites quoi exactement?
Bon, je vais de la plantation de certaines graines ou, je sais pas, mon racine. Je fais de la plantation de manioc, fais des manioc et tout. Je fais les aubergines. Je vais dans les cigoules. Ce sont des choses que je plante rapidement pour maintenant. Voilà, ce sont des choses qui ne traînent pas trop, les maïs. Mm-hmm. Voilà, 2-3 mois, vous avez déjà quelque chose et vous pouvez exceller comme ça petit à petit.
Ça fait combien de temps que vous vous êtes lancé dans ce domaine?
En tout cas, ça fait déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans, puisque je l'ai commencé, j'étais encore en jeu 2. Et j'ai vu que la plantation, puisque c'est une construction de la famille que j'utilise, donc bon, voilà, il n'y a rien qui se passe, la famille ne s'en occupe pas et tout. Et je demandais si je pouvais l'exploiter. Et voilà, l'accord accordé, je me suis lancé et j'ai commencé petit à petit. Et j'ai même déjà des clientes au niveau du marché vers 6 Rompo et Bamanissa et tout. Dès que j'arrive à ce niveau-là, en tout cas, c'est difficile pour que je ramène les marchandises jusqu'en ville, puisque ça s'est terminé déjà au niveau de ces petits marchés. Okay. des Rompo et Bamanissa.
Donc vous écoulez facilement?
En tout cas, facilement. Je ne fais même pas 2 jours avec ce que je sors du champ.
Ok. Mais est-ce que vous, des entrepreneurs ici dans la province de la Tchopo, vous êtes nombreux?
Il y a des jeunes entrepreneurs. Cependant, la difficulté que ces jeunes rencontrent, c'est dans l'épanouissement. Je prendrai même pour mon exemple, je suis dans cette histoire d'agriculture et tout depuis déjà 3 ans. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas d'adresse, je n'ai même pas de siège où on peut venir me trouver facilement. Donc, c'est difficile de s'épanouir. J'ai tenté une expérience en allant apporter une demande à l'FPI, puisque c'est le Fonds de promotion de l'industrie. Je suis allé, je l'ai présenté, ce que je fais, le projet et tout. Et voilà la réponse que j'ai pu obtenir du FPI, c'est que voilà, ils ne sont pas trop dans ces genres d'investissement. Il faut que j'ai déjà une société d'abord déjà implantée et tout. Alors ils peuvent venir plus tard pour apporter des subventions et tout, bien les rapports. Mais que j'ai d'abord une société. Et pourtant, ce que je fais, je ne sais pas, je pourrais le faire pendant combien d'années pour que j'aie suffisamment épargné pour créer une société formelle. Ça devient, c'est déjà une longue histoire que l'on me donne. C'est déjà des exercices que peut-être en ce moment je ne pourrais pas faire. Et pourtant je dois vivre, je dois. Donc épargner jusqu'à atteindre un certain budget pour devenir, pour être reconnu ou avoir des subventions du gouvernement ou je sais pas moi, des sociétés qui œuvrent dans le domaine, c'est déjà compliqué. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont étouffés. Mais il y a du talent, il y a des jeunes qui se lancent et tout. Mais nous ne pouvons pas non plus dire que tous les jeunes sont entrepreneurs. Il y a d'autres qui n'attendent qu'être employés quelque part. Ils finissent ses études, il est rempli d'orgueil. Il s'est dit, non, voilà, moi, je suis juriste, j'attends être avocat, je suis ceci, j'attends devenir magistrat, je suis ceci, je dois être... Alors, les jeunes se perdent comme ça en attendant.
Donc, est-ce que les jeunes entrepreneurs, bien ceux-là qui se lancent, bien ceux-là qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'ils ont été formés? Vous-même, est-ce que vous avez reçu une formation avant de vous lancer dans l'agriculture?
Bon, j'ai participé à quelques formations. Récemment, j'ai été à une formation organisée par un groupe de jeunes entrepreneurs également, mais soutenu par Monet Massoudi. Et avant d'ailleurs ces histoires de propagande, d'élections et tout, il a soutenu ces histoires. J'ai même été breveté et à plusieurs fois, nous assistons à des ateliers dans le cadre du Parlement des jeunes. Pour apprendre au moins de l'entrepreneuriat, ce qu'il faut, comment il faut, les projets, comment ça doit être rédigé, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et nous ne cessons d'utiliser nos téléphones, contrairement à certaines personnes, puisque moi personnellement je suis sur TikTok, mais si on regarde les activités que je consulte sur TikTok, c'est plus des astuces, des orientations, des conseils, ce genre de choses. C'est pour ça que moi je suis sur TikTok. Mais sur d'autres utilisations sur le téléphone et tout, non, qui pourraient me distraire et me faire passer à autre chose. En tout cas, je suis contre cette pratique. Et pour d'autres, certes, il y a ceux qui se font former. Il y a même, l'autre fois, on en a même entendu parler. Il y a même ces jeunes-là qui ont créé des incubateurs et tout. Mais moins sont ceux qui prennent le temps d'apprendre. En tout cas, ça, c'est vrai. Il y a moins qui se donnent le temps d'apprendre. Beaucoup veulent à ce qu'ils aillent sans pour autant en souffrir ou faire tous les chemins nécessaires pour arriver à jouir. Ils veulent jouir directement et c'est pas du miracle. Je pense que Dieu a arrêté déjà de faire tomber des manques du ciel. Donc c'est plus pratique et ce genre de choses arrivent. Il faut vraiment parcourir un long chemin, persévérer, avoir du courage et essayer d'attendre ce que ça nous rapporte demain. Je prends l'exemple d'un monsieur que je vis sur TikTok d'ailleurs. Il nous trace un chemin droit et un autre chemin avec des lignes courbées et tout. Et il lance 2 boules au même moment. Mais celui qui la boule sur la ligne droite est arrivé en retard par rapport à celui sur la ligne avec trop de courbatures. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une descente, ça lui donne plus de pression pour remonter et redescendre encore avec plus de pression. Ça fait que la boule arrive avant la boule qui est allée sur la ligne droite. Pour dire que non, ces difficultés-là ne devraient pas nous décourager, mais plutôt nous donner cette force-là de remonter et d'aller un peu plus vite et de faire en sorte que les choses aillent. Et puis ça nous permet d'apprendre.
Okay. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour booster l'entrepreneuriat dans la province de la Tchopo, d'après vous?
Bon, personnellement, je commence par saluer les actions du ministre d'État, ministre de la Justice, puisque déjà en se lançant contre le, la déprobation de mœurs sur les réseaux sociaux, entre autres TikTok, par ses influenceurs, influenceuses et tout. C'est déjà quelque chose qui dit que non, voilà, il faudrait arrêter de se lancer dans la distraction, mais de revenir sur ce qui peut aider la jeunesse, ce qui peut aider le jeune à grandir, à faire quelque chose. Alors, si déjà ces gens d'initiative pourraient arriver jusqu'au point où, pour moi, mettre certaines clauses pour interdire l'accès à certaines sources d'informations qui n'aident pas les jeunes, mais les envoient dans n'importe quoi, ça serait aussi une bonne chose. Puisque je pense, c'est ce qui se fait sur TikTok, peut-être même dans le pays où même TikTok a été créé, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des règles et tout, c'est comme ce qui nous apporte de boissons gazeuses, d'Ouganda et tout. Ces genres de produits ne se font pas vendre là-bas. Mais les jeunes d'ici, ils sont accros à ces bières des bouteilles blanches ici et tout qu'ils appellent communément Zododo, Agene et autres. Et pourtant, ça détruit. Parce que tu ne peux pas te réveiller ivre, dormir ivre et espérer demain faire quelque chose. C'est pratiquement impossible. Alors moi, je pense que certaines mesures devraient vraiment être prises. Certaines mesures, bien que ça fera mal, mais que ça, il faudrait vraiment que nos autorités arrivent à ramener un peu de l'ordre dans cette pratique de surtout le vente des produits alcoolisés en désordre. Moi, je prends même l'exemple du Rwanda. Je pense que vous avez déjà fait un tour de ce côté-là et vous savez comment ça se passe. Je ne vois pas de bar où on va vendre ces gens d'alcool dans les avant-midi jusque vers 15h, 16h. Je pense que la vente des produits alcoolisés à un certain niveau, ça commence le soir. Parce qu'on suppose que non, on a travaillé et là, on prend une détente avant d'aller se coucher et préparer la journée de demain. Donc, si on doit réglementer certaines pratiques, je pense que ça aiderait aussi les jeunes à revenir dans les droits chemins.
Moi, je parle de booster. Vous avez dit que les jeunes entrepreneurs font face à beaucoup de difficultés. Nombreux n'ont pas de formation. Ils n'ont pas de moyens, pas de subventions de l'État. Et qu'est-ce qu'il faut réellement pour les aider, pour aider, pour faire en sorte que l'entrepreneuriat soit boosté au niveau de la province de la Tchouka?
À ce stade, moi, je pense que on ne peut pas forcer quelqu'un à apprendre. Ça, c'est déjà premièrement. On ne peut pas forcer quelqu'un à apprendre. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose. Et donc, puisque l'État, je ne pense pas qu'il y ait des mesures pour que l'on m'amène à aller à l'école ou que l'on m'amène à chercher à me former et tout, je pense que c'est plutôt une question de conscience. C'est une question de conscience, de prise de conscience individuelle. Chaque jeune devrait savoir que il ne faudrait pas seulement attendre que l'on vienne à notre secours. Ce que nous disait même l'ancien gouverneur de la province à Outaouais. Il me disait, non mais voilà, devant chez toi, tu attends que ce soit le gouvernement qui vienne sortir les herbes ou balayer et tout. Non mais ce n'est pas sérieux. Déjà commence même devant ta porte à sortir les herbes et tout. Donc nous devrions normalement prendre nous-mêmes conscience. Puisque ces personnes m'ont envoyé aller exploiter les terrains de la famille. Je demandais la permission et je suis allé l'exploiter. Donc si le jeune pouvait aussi prendre conscience et aller, ça permettrait à ce que le gouvernement puisse... ne puisse plus se justifier pour dire que non, voilà, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ne viennent pas apprendre, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ne savent pas comment s'informer pour avoir les subventions et tout. Donc, si les jeunes prennent conscience, il n'y aura pas de bouc émissaire. Et ça permettrait également, ce que je disais tantôt, que le gouvernement prenne des mesures sur certains actes, entre autres, ces ventes d'alcool, ces genres de produits et tout, les TikTok et tout, prendre des mesures sur tout ça. Ça aiderait ces jeunes-là à suivre un chemin. Donc, ça serait recadrer, tracer une ligne et les jeunes ne seront obligés que de suivre cette ligne. Et alors là, peut-être que ça, une conscience viendra après une autre, mais que nos parents également puissent faire des efforts. Puisqu'aujourd'hui aussi, ce que nous remarquons, c'est en partie la faute aux parents, puisque nous savons que la société, c'est déjà la famille. Ça commence de la famille. Et si les parents n'arrivent pas à maîtriser les enfants, c'est écœurant. Je prendrai même l'exemple, il y a une famille juste en face de chez nous. C'est l'enfant qui dicte même les règles à la maison. Une fille qui dicte les règles à ses parents, puisque c'est elle qui apporte à manger à la maison, c'est elle qui fait des histoires à la maison. Donc même si elle va découcher, même si elle va faire n'importe quoi, des bêtises à la maison, et papa ne sait pas dire, maman ne sait pas dire, parce que ils n'ont rien à offrir. Et c'est l'enfant qui fait en sorte que la famille marche. Donc vous voyez que c'est certaines actions posées par les jeunes, c'est déjà dû à la famille. Donc la famille devrait aussi prendre certaines lignes, certaines mesures et les responsabilités qu'il faut.
Bon, Monsieur Kaloumé, merci.
Merci beaucoup et nous avons été vraiment honorés. Surtout, nous avions déjà oublié un aspect. J'avais au début de cette interview pensé à ce que l'on devrait aussi rendre hommage à nos frères qui ont perdu la vie à ce naufrage à Bukavu. Et donc, que par ces mots, les cœurs de victimes, le cœur de parents victimes de ces atrocités puissent trouver au moins le réconfort et savoir que nous pensons également à ce qu'ils sont en train de traverser en ce moment.
Le magazine Bano Okapi se poursuit. Nombreux sont de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais n'y arrivent pas, faute de moyens. Mais les jeunes peuvent entreprendre dans tous les domaines, car la province de la Tchopo offre toutes les opportunités aux jeunes, a fait savoir Madame Marguerite Niki, femme politique de la Tchopo. Elle aussi s'entretient avec Gisèle Cash.
Bonjour Madame Marguerite Niki Mayonda.
Bonjour Madame journaliste.
La question est de savoir, parce que j'ai entendu votre intervention tout à l'heure dans l'émission Okapi Service sur l'entrepreneuriat. Comment vous appréciez l'entrepreneuriat de jeunes dans la province de la Tchopo?
On ne peut que positivement apprécier l'entrepreneuriat, parce que le marché de l'emploi n'existe pratiquement plus. Il faut bien que les jeunes apprennent à entreprendre pour leur propre survie. Et d'ailleurs, j'ai personnellement apprécié la création d'un cadre d'encadrement des jeunes entrepreneurs, mais c'est une structure qui n'a bénéficié d'aucun moyen, d'aucun soutien financier pour pouvoir encadrer justement les jeunes. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on disait ? On a dit il faut que les gens apprennent, aient des bribes d'informations sur la gestion financière, par exemple, sur la comptabilité. Nous, les Belges, nous ont légué l'administration bureautique, pas l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est la bienvenue parce que les gens ont compris qu'il faut faire quelque chose. Et puis les gens sont débrouillards. On a parlé aussi de l'informel qui est très très répandu ici. Alors vous comprenez que l'entrepreneuriat c'est une nécessité pour aider les jeunes à s'organiser pour leur propre survie, à devenir patron de leur propre vie. Et donc c'est une appréciation tout à fait positive pour l'entrepreneuriat. Mais il faut vraiment, il faut une certaine initiation à cet entrepreneuriat-là. Il faut un certain renforcement des capacités pour aider les jeunes à comprendre comment procéder.
Mais est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes ici dans la province de la Tchopo qui se lancent dans l'entrepreneuriat?
Nombreux sont les jeunes qui voudraient bien le faire, mais ils sont limités, ils n'ont pas de moyens, parce qu'il faut disposer de quelque chose. Voilà pourquoi j'ai apprécié l'intervention de quelqu'un qui a dit, mais on dit que les jeunes acceptent les méga tous les jours. Il faut que les jeunes apprennent à économiser pour ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est la vie, c'est la survie. Quand vous n'avez pas de moyens, alors on vous donne 1 000 francs, vous préférez dépenser dans les méga. Mais demain, vous allez encore quémander, et indéfiniment quémander, ce n'est pas correct. Donc il faut apprendre à économiser. Parce qu'ici, nombre de gens vivent de ce qu'on appelle la banque Lambert. C'est un système. C'est un système qui appauvrit, qui rend les gens ridicules, qui humilie des personnes. Vous prenez un 100 dollars, vous devez rembourser 150 dollars. Au bout de 30 jours, par exemple. C'est pas un
avec
bon
intérêt,
système.
Donc.
Avec intérêt. C'est pas un bon système. L'État, d'ailleurs, interdit. Et même la Bible interdit ce système. Ouais. Mais les gens vivent de ça parce que on ne peut pas se laisser mourir. C'est grave. Donc, il faut apprendre nécessairement à économiser. Quand on vous donne un 100 francs, faites un effort pour économiser 1 franc. C'est peut-être peu. Mais à la longue, au bout d'une année, au bout de 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, vous allez réunir quelque chose pour pouvoir commencer et l'entrepreneuriat. Il y a aussi le système de fiscalité aussi qui ne favorise pas tellement cette initiative entrepreneuriale parce que on fait face à ces systèmes. Je crois que nous sommes aujourd'hui un gouvernement régional. Nous avons la capacité administrative, politique et financière. Je crois que on doit tenir compte des réalités environnementales pour aussi essayer de revoir la nomenclature des taxes pour aider la population à survivre, à s'organiser. Voilà.
Mais au regard de l'enclavement, si je peux dire ça, de cette région, la province de la Tchopo aujourd'hui connaît des sérieux problèmes, notamment à cause de la route, la RN4, qui est dans un état de délabrement très avancé. Est-ce possible pour les jeunes entrepreneurs d'entreprendre? Et dans quoi? Dans quel secteur?
Oui, madame, dans tous les secteurs on peut entreprendre ici. Et puis, quand vous parlez de la RN4, mais il n'y a pas que la RN4. Il y a aussi les centres ruraux qui sont de véritables centres de production aujourd'hui. Hein, pour ce qui est des routes de dessert agricole, PNUD a reçu les financements dans le cadre du programme de 145 territoires. On aimerait bien savoir où il en est avec ça, parce qu'il a été chargé aussi de réhabiliter les routes de dessert agricole pour booster la production dans les milieux ruraux. Il n'y a pas d'écho là-dessus, madame. Je regrette de n'avoir pas épinglé cette cas. Vous me donnez là l'occasion. Voyez-vous, Kisangani, c'est le carrefour. Il est relié à Kinshasa par le fleuve Congo qui est navigable, en dépit du fait que le dragage s'est fait rarement. Il y a des signalisations qui n'existent peut-être plus, mais il faut que l'État tienne compte de ça, parce que ça, c'est un boulevard qui est indégradable si on le drague à tout moment. Alors, il y a du côté extrême est, là-bas, nord-est. Bon, la RN4, bien sûr, tout ça, c'est une préoccupation. Hier, on a dit des choses. Le gouvernement provincial essaie de prendre des initiatives, mais ces initiatives sont noyées, voyez-vous, par des acteurs. J'ai parlé des responsabilités hier. Donc ici, on peut entreprendre dans tous les domaines. On a besoin de ceux qui produisent. À un moment donné, j'ai même fait allusion au service national, qui est un service important, parce que nous sommes aujourd'hui accablés par la faim. Il a suffi que ce conflit dont on parle ici, à la rive gauche, éclate pour qu'il y ait diminution des denrées sur le marché, parce que c'est aussi un grand stade de production, la rive gauche et le reste là-bas. On a senti ça. On a connu une certaine insécurité alimentaire, bien que légère, mais on a ressenti ça. Et donc, on peut entreprendre dans l'agriculture, on peut entreprendre dans le domaine de l'environnement, on peut entreprendre dans le domaine de la télécommunication, dans tous les domaines on peut entreprendre. Mais aujourd'hui là, l'agriculture passe d'abord, parce qu'on a besoin d'abord de manger à notre faim pour pouvoir bien réfléchir demain. Demain. Or, les Belges nous ont appris à mépriser l'agriculture. Il faut une initiation, il faut une certaine vulgarisation, une certaine sensibilisation pour que les jeunes comprennent que le travail de la terre, c'est ça qui enrichit l'homme.
Il y a des jeunes avec qui je me suis entretenue, mais qui disent ils n'ont pas le moyen de commencer, ils n'ont pas la formation requise pour commencer. Moi, je me dis, bon, la formation, on peut aussi s'auto-former. Ne voyez-vous pas qu'il y a aussi une sorte de négligence quelque part de
ce jeune? Il y a négligence, les gens ne veulent pas s'associer. Je me rappelle quand on avait commencé l'exploitation de diamants ici, les jeunes parlaient de l'écurie. Un groupe de jeunes se mettait ensemble et ils se débrouillaient, ils trouvaient du matériel et ils allaient à l'exploitation artisanale. Mais pourquoi on ne le ferait pas aujourd'hui? Pourquoi on ne le ferait pas aujourd'hui? Cette crise entre Congolais, entre eux, c'est aussi un mal qui mine notre cohésion, qui nous décourage de ce que nous devons apprendre, entreprendre. Vous entreprenez avec telle personne et tout ça, les commerçants en font souvent les frais. Il est avec quelqu'un qui est à Kinshasa, qui doit attendre ce qui vient de l'extérieur pour acheminer. Et c'est à un moment donné, quand l'argent augmente, la personne disparaît. Et au grand dame de l'autre qui lui avait fait confiance. Donc nous devons construire aussi la confiance entre nous, pouvoir mettre nos énergies ensemble pour entreprendre quelque chose et réussir, pourquoi pas, les Japonais. Il y a des grandes entreprises japonaises qui se sont créées autour d'une même famille. Et quand vous avez abusé, on vous prive certains avantages, mais ça continue.
Mais dans quelle mesure l'État congolais peut accompagner cette jeunesse dans l'entrepreneuriat?
J'ai dit que l'État congolais crée des structures. Je crois qu'on appelle ça ACODER, quelque chose comme ça. Hein, pour l'encadrement justement des entrepreneurs. Mais ce n'est pas suivi par un appui pour permettre à ces... Ça existe ici chez nous. C'est une sorte d'incubation d'entrepreneurs. C'est-à-dire encadrer tous ceux-là qui entreprennent pour leur donner certaines connaissances, certains mécanismes pour la gestion d'une entreprise. Ça existe, mais l'État ne finance pas ça. Vous créez une entreprise, vous ne financez pas. Comment les gestionnaires de ces entreprises peuvent s'y prendre? C'est difficile. Et au niveau local, il faut peut-être réfléchir, voir comment on peut dégager quelque chose de notre budget pour financer cette structure-là, pour que les jeunes s'y trouvent. Donc c'est question de responsabilité à tous les niveaux.
Donc la responsabilité des jeunes et notamment de l'État.
La responsabilité des jeunes, la responsabilité de l'État congolais, l'État qui crée ces structures, tout ça, et pour aider à ce que les choses marchent.
Alors Madame Marguerite Niki, oui, ma'am. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie sincèrement.
Okapi, Okapi, Okapi. Ce n'est pas fini, nous recevons cette fois-ci le professeur Alphonse Maindo Mongangonga, chercheur et politologue. Pour lui, l'entrepreneuriat est une solution au problème de chômage dans la province. Il estime que les jeunes peuvent entreprendre dans tous les secteurs dans la province de la Tchoupo.
Professeur Maindo, bonjour.
Bonjour madame.
La question est de savoir comment appréciez-vous l'entrepreneuriat de jeunes dans la province de la Tchoupo.
Alors, disons que ici dans la province de la Tchoupo, il y a, on pourrait dire, un faible taux d'entrepreneuriat de jeunes. La plupart des jeunes sont plutôt désœuvrés. On voit, ils créent plutôt ce qu'on appelle ici des écuries ou des staffs. Il y en a plein dans toute la cité ici, des jeunes qui restent là avec un président toute la journée, à longueur de journée, ils sont là en train de boire des boissons alcoolisées, parfois même de fumer des chanvres, et ça augmente l'insécurité puisque quelquefois ils vont faire de banditisme, vous passez avec votre téléphone et vous dites non, le président aime ce téléphone et il faut donner le téléphone. Si vous résistez, on vous arrache, on vous violente, et parfois même les chaussures et tout ça. Et donc ça c'est un sérieux problème. Maintenant, il y a quelques-uns qui sont dans les secteurs informels, qui essaient de se débrouiller pour faire les taxis motos. Je crois que vous avez pu vous rendre compte qu'ici, il y a beaucoup de taxis motos qui circulent en ville. Et donc ça, c'était un nouveau métier qui s'est installé en remplacement de celui qui était là avant des taxis vélos qu'on avait avant. Maintenant, ensuite, de ça, vous avez aussi une autre catégorie de jeunes qui est dans la vente des unités de téléphones qu'on a là, où ça soit pour les shops et tout ça. Voilà, il y a un groupe de jeunes qui font ça aussi. Alors ça, c'est de manière globale. Après, il y en a qui ont pu avoir une ONG ou qui sont employés là-bas ou bénévoles. Il y en a qui sont rares, qui ont trouvé la fonction dans la fonction publique ou dans une petite entreprise, une petite établissement qui existe là-bas. Maintenant, la difficulté que nous avons ici en ce qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes, c'est que peu de jeunes ont appris à créer de l'emploi pour eux-mêmes, à s'organiser, à pouvoir, même ceux qui ont créé des micro-entreprises informelles et tout ça, pour tenir une administration comptable, pour savoir, noter toutes les dépenses qu'on fait, toutes les recettes qu'on fait pour faire les soldes, ne fût-ce que cette comptabilité simplement à deux colonnes de base. Très peu font ça. Ils font comme les gens de la rue, donc on récupère l'argent, et donc on ne sait pas si on a fait le bénéfice ou pas. Et c'est pour ça que la durée de vie de même ces initiatives qu'on fait là-bas est très faible. Donc il y a là, si vous voulez, besoin de formation pour initier les jeunes à l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas forcément l'enseignement scolaire ou académique classique qui pourrait résoudre ce problème. Ça peut être des formations sur l'État, que l'INPP ou les foyers sociaux qu'on a ici dans le cadre des ministères des Affaires sociales, ou ça peut être aussi les services de comme la division du travail et de l'emploi qui peuvent organiser ce type de formation, ou même, pourquoi pas, nos universités pourraient organiser ce type de formation. On ne peut pas seulement faire des formations classiques, on peut faire des formations qui soient ciblées pour donner des compétences spécifiques aux gens, pour permettre ça. Et un autre obstacle majeur qui n'est pas vraiment négligeable, c'est l'accès au crédit. Et ici, les banques demandent toujours qu'il y ait une garantie pour pouvoir vous donner un crédit, pour pouvoir avancer et vous donner de l'argent pour faire votre entreprise. Alors, je pense que l'État pourrait créer les conditions pour favoriser cela, pour donner une espèce de fonds de garantie, que l'État se constitue garantie pour les jeunes qui veulent entreprendre, qui ont un vrai plan d'affaires, un business plan vraiment correct, bien pensé. On voit que ça peut être rentable. Et l'État appuie, donne le dossier au niveau de la banque, et l'État se constitue garant pour le financement de ces jeunes hommes-là. Alors, en ce moment-là, on pourrait créer. Mais en dehors de cet appui en termes de financement, il faut qu'il y ait également des incitations en termes de fiscalité, de parafiscalité. On donne beaucoup d'avantages à des sujets étrangers, libanais, chinois et autres, des exemptions de toutes sortes, y compris même de la garde armée, tout ça, policière et tout, pour les sécuriser. Mais les propres citoyens congolais qui devraient être les premiers à bénéficier de ces services-là ne peuvent pas bénéficier de ça. Et j'ai donné tout à l'heure l'exemple de jeunes femmes qui font des petits commerces pour vendre peut-être au bout des rues des cacahuètes grillées mais elles sont soumises à des taxes tous les jours. Elles doivent payer 1000 francs pour la commune, 1000 francs pour la mairie, 1000 francs pour tel autre service de l'État qui vient. Mais regardez leur chiffre d'affaires, ça représente quoi? Et quand quand vous, vous prenez ça avec le chiffre d'affaires, vous voyez que la charge fiscale, elle est au-delà des 50%. Et donc, et pourtant, les autres entreprises, non, ne payent pratiquement rien. Et c'est là qu'il y a des possibilités d'explorer pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes.
Mais est-ce que pour lutter contre le chômage, l'entrepreneuriat est, est la solution?
Je pense que l'entrepreneuriat n'est pas la solution, mais c'est une solution parce qu'on peut faire, on peut trouver aussi d'autres voies pour résoudre les chômages. C'est-à-dire aussi l'État favorise les conditions pour qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui se mettent en place où les gens peuvent aller travailler aussi dans les PME. Et je rappelle que dans beaucoup de pays, même les pays qu'on dit aujourd'hui développés, ce qui fait l'économie, la force de l'économie, c'est les petites et moyennes entreprises qui emploient entre 2, 3, 4, 5, 10 personnes. C'est elles qui créent l'emploi. Et donc, on peut travailler chez eux, même si on n'a pas créé soi-même son entreprise. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une solution et parmi d'autres solutions. Mais maintenant, il faut que nos jeunes aussi puissent sortir un peu de cette mentalité qui est trop répandue ici. Toutes ces églises qu'on appelle des églises de sommeil, excusez-moi, de réveil, en tout cas, toutes ces églises-là, qui, à longueur de journée, multiplient des activités, des prières, des jeûnes, des si, tout ça, des campagnes, tout ça, et des veillées. Et les gens ne font plus autre chose qu'aller là-bas, au lieu de penser, travailler, tout ça. Les gens, au lieu, ici, nous sommes dans une zone où vous jetez une noix de c'est pas moi quel fruit, après le jour, ça pousse. Mais pourquoi on ne peut pas organiser ça? Faire du jardinage pour planter des légumes ou des cultures maraîchères. Et ça peut produire de l'argent pour vendre ici, on gagne de l'argent. Mais les gens vont aller prier pour demander qu'on puisse donner du travail, on puisse faire ceci, tout ça. Mais c'est une perte de temps. Dieu ne viendra pas pour vous donner ça. Et au contraire, le peu d'argent que les gens peuvent gagner en commandant auprès des parents et des amis, tout ça, ils vont encore donner à ces vendeurs d'illusions que sont ces pasteurs de ces différentes églises. Voilà. Et eux, ils s'enrichissent et les gens continuent toujours à trimer avec l'espoir qu'ils auront un jour la bénédiction. Dieu leur donnera un travail. Ça ne tombera pas du ciel.
Mais dans quel domaine entreprendre ici à La Tchopo?
Alors, ici à La Tchopo, disons que La Tchopo, c'est vraiment un domaine qui est, un secteur qui est totalement vierge. Il y a toutes les opportunités ici. On peut entreprendre dans presque tous les secteurs. Qu'il s'agisse du secteur de, comme je disais tout à l'heure ici, du secteur agricole. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens que nous, par exemple, dans une ONG avec laquelle on travaille, on appuie des gens pour faire le cacao. Ça fait 2 ans qu'on les a appuyés. Ils ont commencé à produire le cacao. Et ça tombait que certains de ceux qui ont des premiers producteurs, ils ont vendu le cacao cette année-là à 15 000 francs, 10 000 francs le kilo. Alors que quand on avait commencé la campagne, c'était à 1,5, c'est-à-dire à peu près 4 500 francs congolais. Ça, le prix a donc doublé, voire triplé. Et donc il y a là une opportunité. Et le cacao de La Tchopo aussi de la région est beaucoup mieux apprécié à cause de son parfum, de sa saveur et aussi les graines sont plus grosses que les cacao qu'on a, par exemple, dans le Nord Kivu. Et il y a des gens qui viennent acheter ça jusqu'ici. Vous n'avez même pas besoin de chercher. Il y a cette possibilité-là. Mais il y a également d'autres domaines où on peut faire ça. Ici, dans la ville, on a un problème d'accès à, disons, si vous voulez, sur le marché, il y a la rareté de certains produits de base, comme les légumes, les fruits, tout ça. On pourrait aussi faire ça, faire des épinards, des poireaux, tout ça. Là, on peut cultiver ça pour gagner. Mais il y a d'autres possibilités de faire. Par exemple, on peut faire des entreprises de construction. Je vois qu'il y a beaucoup de chantiers ici qui se font. Mais pour trouver, si vous venez avec beaucoup de professionnalisme, vous allez gagner toutes les parts du marché ici. Parce que trouver quelqu'un qui vous fasse bien les travaux de finition, carrelage ou plomberie ou électricité, c'est difficile. Mais si un jeune crée une entreprise qui est vraiment professionnelle, avec des gens qu'il a formés, tout ça pour faire ça, va rafler les marchés ici. Vous voyez qu'il y a un boom de construction de l'immobilier ici. Alors, mais il y a, tout le monde veut faire simplement dans les négoces. Non, les négoces, les petits commerces qu'on fait là-bas, ce n'est pas ça qui va développer un pays. Vous enrichissez par contre ceux qui ont produit ailleurs. Et donc, il faut qu'on arrive à... C'est pour ça que je parlais ici de retrouver les fondamentaux, que ce soit dans l'agriculture ou que ce soit dans les bâtiments, ou bien il y a les services aussi, les services à la personne. On voit qu'il y a ici beaucoup les hôpitaux ici sont des mouroirs. Il peut y avoir des gens qui peuvent entreprendre, par exemple, pour avoir des laboratoires d'imagerie médicale. C'est un désert médical ici. Si un jeune peut entreprendre dans ce domaine-là, il pourrait avoir vraiment une niche. Toute la vie d'exemple, il n'y a pas un scanner, par exemple. Et si vous voulez faire une imagerie médicale ici, vous allez avoir de la clientèle. Vous ne manquerez pas d'argent.
Oui. Professeur Maïko, merci beaucoup.
Je vous en prie, madame.
C'est par ici que nous bouclons ce numéro du magazine Bana Okapi qui s'est penché sur le défi de l'entrepreneuriat qui rencontre le jeune de la province de la Tchopo. Ce magazine a connu la participation de Plamedimbi Yavanga, Grasso Vezolo, Rachel Kessé, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salumu, Étienne Lissumbu, Guylaine Kassassia et Stanislas Diumi. Sarah Soumbel a été à la présentation. Gisèle Cash a coproduit et réalisé ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele, Dijano. C'est toujours pour nous un plaisir de partager ce 90 minutes avec vous. Toute l'équipe Bana Okapi vous fixe rendez-vous prochainement sur la même fréquence et à la même heure.